Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour. Voici d'abord les titres. D'où un jeune homme pouvait-il tirer la force de résister à la corruption enraciné dans la mentalité courante et capable de toutes les violences? C'est la déclaration du pape Léon XIV au lendemain de la béatification du Congolais Floribert Bwanachui. Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, n'a toujours pas déposé sa démission auprès de la première ministre et chef du gouvernement en dépit de sa mise en accusation autorisée dimanche par l'Assemblée nationale. Mais il nous revient de son cabinet que sa lettre de démission serait déjà prête et qu'il restait légaliste. Nous recevons comme invité le chef de projet de l'ONG Programme d'appui à la lutte contre la misère, PAMI en sigle. Dans le cadre de la commémoration de la journée de l'enfant africain, Jean-Marie Negoura parle des défis de protection des enfants dans un contexte de crise sécuritaire et économique actuelle au Nord Kivu. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette grande édition du Journal Parlé. D'où un jeune homme pouvait-il tirer la force de résister à la corruption enracinée dans la mentalité courante et capable de toutes les violences? Floribert était convaincu que nous étions nés pour faire de grandes choses, pour marquer l'histoire, pour transformer la réalité. C'est la déclaration du pape Léon XIV au lendemain de la béatification du Congolais Floribert Bwanachui. Il recevait hier lundi à Rome en audience les pèlerins venus pour cet événement. Pour le pape, le choix de garder les mains propres pour les fonctionnaires de la douane qu'était Bwanachui mûrit dans une conscience formée par la prière et la communion avec ses frères. L'évêque de Rome espère que la béatification de Chui va contribuer au retour de la paix dans le Kivu. Il le dit dans cet extrait choisi par Blaise Makasi Nandes.
Être honnête, c'est répandre la lumière de Dieu, c'est vivre la béatitude de la justice, vaincre le mal par le bien. La force de Floribert a grandi dans la fidélité à la prière et aux pauvres. Il était un homme de paix, dans une région aussi souffrante que le Kivu, déchirée par la violence. Il menait son combat pour la paix avec douceur, en servant les pauvres, en pratiquant l'amitié et la rencontre dans une société déchirée. Ce jeune homme, jamais résigné au mal, avait un rêve nourri par les paroles de l'Évangile et la proximité du Seigneur. En dépit de tout, il exprimait sa confiance en l'avenir. Puisse la paix tant entendue par l'intercession de la Vierge Marie et du bienheureux Floribert advenir bientôt au Kivu, au Congo et dans toute l'Afrique.
Au Nord Kivu, les combats opposant les rebelles de l'AFC M23 aux combattants du collectif des mouvements pour les changements se poursuivent ce mardi dans les territoires de Rutshuru. Selon les sources locales, plusieurs villages des groupements Bambo, Bukombo et Tongo sont touchés par ces combats. Du coup, la situation humanitaire se dégrade de plus en plus dans cette zone. Des dizaines d'entités sont à présent vidées de leurs habitants. Les détails avec vous, Étienne Lissumbu.
Ces combats se concentrent ce mardi dans le village de Kanyansi, en groupement Tongo et dans celui de Kijungu, près de la paroisse de Birambinzo, groupement de Bukombo, chefferie de Buito. Pour les sources locales, dans le village de Kanyansi, une structure de santé qui prenne en charge les Wazalendo au CMC aurait été incendiée ce mardi matin par les rebelles FCM 23. Un notable local aurait également été interpellé. Rappelons que c'est depuis le matin, hier lundi, que des violents affrontements opposent le rebelle du mouvement FCM 23 aux combattants du collectif de mouvement pour les changements CMC. C'était d'abord sur les collines Bumbasha et Bunkuba dans les villages Mouchebere et Katiri. C'est environ 10 km de Mouesso dans le groupement Bukombo, chefferie de Buito. Des crépitements des balles ont notamment été entendus à Kagando et Mouti dans le groupement des Bambo. Une situation qui panique la population contrainte à fuir, notamment en direction de Mouesso dans les territoires voisins de Masisi et vers le centre des Bambo, rapportent nos sources. Elles ajoutent qu'au moins 18 maisons d'habitation auraient été été incendiée à Mouchébéré. C'est depuis la semaine dernière que des combats sont rapportés presque chaque jour dans cette partie de la province du Nord Kivu où les groupes Wazalendo sont de plus en plus actifs malgré l'occupation précaire par les rebelles du M23.
Au sud Kivu voisin, dans les territoires de Kabare, la population vaquait timidement à ses activités ce mardi après les affrontements entre les Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 samedi et dimanche passé. Les activités scolaires ont repris ce matin à l'Institut Kamolé, tandis que les 5 autres écoles environnantes comptent reprendre demain. Les élèves ainsi que les enseignants ont encore à l'esprit la scène macabre des combats qui se sont déroulés dans la concession de leurs établissements scolaires. Un écolier a succombé. Sami Moulemangabo de la société civile de Kabare revient sur la situation qui prévaut aujourd'hui sur les lieux.
Par rapport à la situation à Kabare centre dans l'ensemble, il y a un calme précaire qui s'observe. Les activités scolaires n'ont pas repris normalement, pas assez. Si la situation ne pourrait pas se dégrader, les cours pourraient reprendre normalement, mais il y a une circulation timide sans doute, d'autant plus qu'il y a eu des affrontements récents le dimanche dans l'entité. La population est sur les qui-vive parce que dans certains endroits, ce sont le mouvement de M23 et dans les zones périphériques, beaucoup plus du parc et environ, ce sont les Wazalendo qui occupent les zones depuis un temps. Il y a la peur qui est toujours visible. De l'autre côté, vers Amsar, il a été rapporté 4 corps sans vie, visiblement tués sur place à Amsar, emballés dans le sac et jetés dans le lac Kivu, route Bukavu-Mudaka.
Sur Kivu encore, une personne a été tuée à Bukavu par des bandits non autrement identifiés dans la nuit de lundi à ce mardi à Burolo, Kasha, dans la commune de Bagira. Les assaillants se sont introduits dans la maison de la victime aux environs de minuit. Et puis, dans la même nuit, deux avenues plus tôt, de la commune d'Ibanda, à savoir les avenues Mukukwe et ISP dans les quartiers Ndendere, ont enregistré des cas de vol à main armée. Argent et appareils portables ont été emportés par les malfrats. En Ituri, pendant ce temps, plus de 700 000 enfants sont affectés par les conflits armés depuis 2017, surtout dans les territoires de Djougou et d'Irumu. La plupart de ces enfants installés dans des sites vivent dans des conditions difficiles et ne vont pas à l'école. C'est le constat fait hier lundi 16 juin par la coordination de la société civile de l'Ituri à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant africain. Cette structure demande au gouvernement et à ses partenaires de garantir les droits de ses enfants en vue de sauver leur avenir. Isaac Remoyope.
Ces enfants sont disséminés dans plus de 60 sites de déplacés. D'autres sont dans des familles d'accueil ou traînent dans les rues, notamment à Bounia, chef-lieu de la province, et à Komanda. Ils manquent de tout, vivres, soins médicaux, habits. La plupart ne vont pas à l'école depuis 7 ans. Pour la coordination provinciale de la société civile, cette journée dédiée aux enfants africains doit interpeller toutes les institutions nationales et internationales à se pencher sérieusement sur la situation de précarité des enfants à l'est de la RDC, mais surtout de trouver des solutions durables, entre autres, arrêter les violences armées qui perdurent. C'est l'envie de leur offrir un environnement qui contribue à leur épanouissement général. Dieudonné Lossa.
Beaucoup d'enfants se trouvent dans des situations médiocres que le monde entier reconnaisse la souffrance de ces enfants et trouve la solution pour que ces souffrances soient arrêtées. Nous avons besoin d'appui des pays partenaires à la RDC, des communautés internationales afin de nous aider à arrêter les violences pour permettre à ces enfants de revenir dans les villages, leur donner la chance de retrouver le chemin de l'école et aussi de vivre dans les conditions adéquates.
De nombreux enfants sont utilisés dans les groupes armés ou dans des carrières minières, ce qui constitue une violation de leurs droits, ajoute la même source. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nous le disions en titre, dans l'affaire de détournement des 19 millions de dollars, le ministre de la Justice Constant Mutamba n'a toujours pas déposé sa démission auprès de la première ministre et chef du gouvernement, en dépit de sa mise en accusation autorisée dimanche par l'Assemblée nationale. Mais il nous revient de son cabinet que sa lettre de démission serait déjà prête et qu'il reste légaliste. En attendant, l'envoi en fixation de son dossier devant la Cour de cassation pour un procès, le procureur
procureur général près la cour l'interdit de sortir de la ville de Kinshasa à travers sa correspondance adressée à la direction générale de migration. Il attaque également certains actes posés antérieurement par le ministre. Jeff Ngoy nous fait le point.
Conformément aux dispositions des articles 166 alinéa 3 de la Constitution et 80 alinéa 2 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation, tout membre du gouvernement mis en accusation présente sa démission dans les 24 heures. Passé ce délai, il est réputé démissionnaire. Maintenant, selon certains analystes, dans la prophylaxie politique ou criminelle, il est conseillé d'empêcher une personne de surcroît un ministre qui fait l'objet de poursuites de ne plus avoir la mainmise sur la chose publique. La personne elle-même, par honneur, peut démissionner. Avant de se déclarer malade, le ministre accédait encore à son cabinet, mais sans participer au conseil des ministres. Par ailleurs, le procureur général lance des recherches actives des détenus illégalement libérés par Mutamba et qu'il qualifie des évadés de prison. Selon Firmin Vonde, des nouvelles alarmantes lui parviennent, faisant état de la circulation en hommes et femmes libres de beaucoup de détenus censés se retrouver dans différentes prisons du pays. C'est hors la loi, dont la plupart sont incriminés de meurtre, torture et vol à main armée, devront être remis sous les verrous, d'après le procureur.
À Lubumbashi, 42 feuilles de cathode de cuivre volées ont été présentées ce lundi au commissaire provincial de la police du Haut-Katanga. Ces cathodes de cuivre ont été volées par des coupeurs de route dans la cité minière de Kakanda, province du Lualaba. Elles sont souvent acheminées vers Kasumbalesa en passant par la ville, les villes de Likasi et Lubumbashi pour être vendues. La police souligne que le vol de ces substances minérales est récurrent ces derniers temps dans cette partie du Grand Katanga. Paul Munanga nous en dit plus.
Le chef des bureaux renseignements généraux de la police des mines et des hydrocarbures à Lubumbashi qui a intercepté cette cargaison de feuilles de cathode de cuivre indique que la police a été alertée du détournement d'un long camion trac transportant des substances minérales. Et ce camion appartenant à la société Kambov Mining a été détourné par des coupeurs de route dans les parages du village Tumbwe. La police a mené une enquête et est parvenue à récupérer le camion mais avec quelques feuilles de cathode de cuivre en moins. Elle est parvenu à intercepter finalement un minibus de substances minérales volées. Le commissaire supérieur adjoint Philippe Mutombo, chef des bureaux renseignements généraux de la police des mines et des hydrocarbures à Lubumbashi, explique les modes opératoires des voleurs.
Chaque fois que les véhicules empruntent ces axes, il y a des coupeurs de route qui les prennent et qui les amènent en brousse, là où ils arrivent à décharger frauduleusement les substances minérales. Et après, les véhicules sont récupérés soit sans charge. Dès qu'on décharge, on met dans des bus IAS, dans des voitures Probox, et les véhicules rentrent facilement à Lubumbashi vers les opérateurs mafieux qui sont dans le secteur minier et qui les revendent peut-être vers Kasumbalesa et ailleurs.
Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Revenons à Kinshasa pour parler du port en eau profonde de Banana dans le Congo central qui sera livré dans un délai de 18 à 20 mois. Cette précision est donnée par Georges Rico, directeur général des DP World RDC, à l'issue de la rencontre lundi entre les ministres des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, et une délégation de la société DP World. Cette délégation est venue faire le point sur l'état d'avancement des travaux de construction du port en eau profonde de Banana. Cette séance de travail s'est déroulée en présence de plusieurs responsables des DP World Afrique, dont le directeur général Afrique subsaharienne ainsi que le directeur général des DP World RDC. Georges Rico, directeur général des DP World RDC, dans cet extrait choisi par Blaise Makassi Nandes.
Nous avons effectivement complété la première phase des travaux de dragage avec grand succès et nous avons fait un état des lieux des prochaines étapes pour les prochains 6 à 12 mois à son Excellence le vice-premier ministre. Donc tout est en ordre et nous espérons délivrer ce projet le plus rapidement possible. Les prochaines étapes principales sont, on va démarrer les travaux de dragage avec une deuxième drague qui va venir sur le site dans les prochains 30 à 40 jours. Donc c'est une drague qui est en cours d'importation. Et nous avons également le constructeur qui commence toutes les importations des équipements pour les grands travaux du port en eau profonde de Banana. Donc, comme nous l'avons exprimé à son excellence, les travaux suivent bon cours. Nous n'avons aucun retard et nous espérons pouvoir délivrer ce projet le plus rapidement possible. Le projet sera délivré entre 18 et 20 mois, et ou plutôt, mais on ne va pas aller au-delà de cette échéance.
Dans la province du Maniema, l'UNPC de cette province lance l'opération d'identification des professionnels des médias. Cette opération qui concerne toute la province commence à Kindu, chef-lieu de la province, pour une durée de 14 jours. Grâce Mbambi ou Mbambi, président du comité de transition de l'UNPC Maniema, appelle les concernés à être prêts avant de demander l'accompagnement des autorités. On écoute Grâce Mbambi ou Mbambi au micro de Florence Kizalunga.
Nous demandons aux professionnels des médias d'être prêts parce que quand nous sommes en train de passer dans chaque média, nous récoltons les fiches collectives que nous avons déjà distribuées auparavant. Donc nous demandons aux uns aux autres d'être prêts quand nous allons passer dans leurs médias respectifs et de remplir toutes les informations que nous avons demandées sur la fiche. Les journalistes sont des gens qui accompagnent souvent toutes les catégories de la population, que ce soit les autorités, les citoyens lambda. Maintenant que nous sommes en train de nous organiser, nous voulons assez notre profession, nous avons besoin de l'accompagnement de tous. Cet accompagnement-là, ça peut être un accompagnement moral, financier, de tout genre. Non, nous avons vraiment besoin du soutien de tout le monde.
Actualité internationale.
Israël a affirmé mardi avoir visé des sites militaires en Iran et tué un haut gradé lors de nouvelles frappes aériennes auxquelles Téhéran a riposté par des tirs de missiles au cinquième jour de confrontation. Les gardiens de la révolution disent avoir frappé un centre du Mossad.
L'invité.
Nous recevons comme invité le chef de projet de l'ONG Programme d'appui à la lutte contre la misère PAMI en sigle. Jean-Marie Negoura parle des défis de protection des enfants dans ces contextes de crise sécuritaire et économique actuelle au Nord Kivu. Il fait cet état des lieux en cette occasion de commémoration de la journée de l'enfant africain. Il revient aussi sur les efforts de son organisation et ses partenaires des Nations Unies dans l'encadrement de près de 800 enfants affectés par les conflits armés en province. Jean-Marie Negoura dans cet entretien accordé à Bernadette Nyangui.
Monsieur Jean-Marie Negoura, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'enfant africain. Pour vous, quelle est la valeur que vous accordez à cette journée?
Ça nous permet de sensibiliser les enfants pour continuer à lutter pour les droits des enfants parce que certains enfants de l'Afrique du Sud ont été victimes de la réclamation des droits et on les a massacrés. C'était le 16 juin 1967. Et en date du 16 juin 1991, on a fait la première célébration. Ça nous permet encore une fois de dire aux enfants qu'ils ont des droits et aussi il faut qu'ils puissent bien faire leurs devoirs pour que les droits aussi soient recouvrés.
C'est quoi le thème sur lequel vous êtes en train de...
Le thème international, c'est la planification des activités pour les droits des enfants. Et le thème national, c'est la budgétisation pour les projets visant à promouvoir les droits des enfants.
Pour vous, ce thème, vous l'analysez comment?
Nous devons impliquer les enfants dans la planification, dans la budgétisation, dans les listes des besoins des enfants pour que les ménages puissent planifier les dépenses en fonction de la liste des besoins des enfants.
Nous sommes au Nord Kivu. Pour vous, cette journée aujourd'hui, est-ce qu'il y a certaines particularités par rapport aux enfants que vous encadrez?
Affirmatif, d'habitude, on encadrait des enfants dans les temps normal où il n'y avait pas de guerre, mais actuellement avec la situation de guerre, parce que même si on semble être dans la calmie, mais on est dans un régime qui paraît comme si on était dans la guerre parce que avec la libération, avec le gouvernement qui est à Kinshasa et nous sous un autre régime, c'est un signe qui ne présente pas la paix. Donc en temps de paix, il y avait des façons de célébrer cette journée, mais en ces temps où on n'est pas vraiment bien à l'aise, les banques fermées, les forces gouvernementales un peu éloignées, et les forces rebelles qui sont aussi dans ce qu'ils sont en train de faire, on ne parvient pas à bien célébrer la journée parce que même les moyens sont limités, même les bailleurs de fonds n'ont pas la facilité de nous superviser. ce qui fait que même la journée n'est pas très bien célébrée comme les autres années.
Comme PAMI, vous encadrez aujourd'hui à peu près combien d'enfants affectés par les conflits armés?
En tout cas, nous encadrons beaucoup d'enfants, des enfants de 2023, 2022, des enfants pour cette année, nous avons visé atteindre 800 enfants directement affectés par les conflits armés. C'est-à-dire 200 enfants au niveau de Walikale qui vont quitter le groupe armé, 600 enfants au niveau de tout le Nord Kivu qui se sont égarés des parents. Et nous sommes sollicités pour chercher leurs parents et pour les joindre aux parents. Et nous, lorsqu'on retrouve l'enfant, on le remet à la famille. C'est une joie. Ça réduit un peu la misère, quoi.
En cette journée, vous avez un message particulier comme encadreur d'enfants.
Oui, un message particulier. Si les parents ont des enfants qui se sont égarés, qu'ils viennent faire la vie de recherche chez PAMI, nous cherchons les enfants et nous les réunifions aux parents. S'il y a un enfant dont les droits sont piétinés, par exemple la maltraitance, non-éducation de l'enfant, même privation de nourriture, les enfants qui ont commis des péchés ou des fautes, les parents se résolvent de ne pas scolariser l'enfant, ça, ce ne sont pas des genres de punitions qu'il faut donner aux enfants. Notre journée d'aujourd'hui est de sensibiliser les enfants pour réclamer les droits et aussi sensibiliser les parents pour reconnaître les droits des enfants. Et au même moment, nous sensibilisons encore les enfants pour qu'ils puissent aussi bien exécuter leurs tâches, leurs devoirs, pour que les parents se sentent à l'aise quand ils répondent aux besoins des enfants.
Peut-être un message pour clôturer. Vous avez un projet avec UNICEF, mais aussi avec la MONUSCO.
Affirmatif, nous avons un projet avec UNICEF. Nous cherchons les enfants qui se sont égarés. Nous les réunifions. Nous faisons aussi la réintégration socio-professionnelle et la scolarisation. Avec MONUSCO, nous aidons les enfants qui ont quitté le groupe armé. Et aussi, on profite pour les réintégrer dans la société. Et il y a aussi la partie apprentissage des métiers.
Monsieur Jean-Marie Mendegoura, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de notre grande édition du journal Parler de la mi-journée, coordonnée par Élisée Chikota Chivoueta, supervisée par Martin Sebujangwe et mise en onde par Alain Goy. Blaise Chindani Kambala l'a présenté. Merci pour votre attention soutenue.